Suite de notre émission consacrée aux écrans et les enfants, donc les écrans en famille, du téléviseur jusqu'à la tablette en passant par le smartphone et l'écran d'ordinateur. Nouvelle invitée ce matin de cette émission réalisée avec le concours de la CAF de Vire-Normandie, le docteur Pierre-Jean Aigler, psychiatre au pôle enfance, adolescence, famille de Vire-Normandie. Docteur Aigler, bonjour. Merci d'avoir accepté donc notre invitation ce matin et aussi pour témoigner de tout ce que vous pouvez rencontrer puisque vous êtes au contact direct avec les parents. Alors j'ai l'impression quand même que depuis le début de l'émission, on diabolise un petit peu les écrans. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est vrai que c'est un phénomène qui a été quand même assez rapide et puis qui a surpris tout le monde, les enfants comme les parents, l'arrivée comme ça des écrans dans nos modes de vie. On en est tous plus ou moins touchés, on a tous des téléphones, on a tous des écrans chez nous et on doit bien faire avec. Alors c'est vrai qu'il y a... On a tendance, comme toutes les nouveautés, à beaucoup se méfier. Mais il faut aussi rappeler que ce sont quand même de formidables outils d'ouverture sur le monde, de découverte, et qui donnent accès à la culture, à des populations qui parfois auraient pu en être privées. Donc l'écran est aussi... un écran sur le monde.
Oui, alors écran sur le monde, et paradoxalement, on dit aussi que c'est un repli sur soi-même quand on passe un temps fou devant son écran, quoi. C'est ça.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être très schématiquement distinguer l'écran refuge qui vient nous replier, nous permettre de nous terrer, de nous mettre dans notre bulle, et puis l'écran partage. C'est-à-dire que l'écran utilisé avec une vertu relationnelle, un parent qui va expliquer à son enfant, appuyé par des moteurs de recherche, par les écrans, une mythologie sur le monde, c'est-à-dire... des connaissances et puis l'avidité dans cette recherche de connaissances, hein, partager un moment avec son enfant de bonheur dans la recherche d'une connaissance, hein, ça peut avoir de grandes vertus.
Alors, est-ce que il y a véritablement une problématique qui augmente par rapport aux gens qui viennent consulter et dialoguer avec vous, quoi ?
C'est très difficile à dire, c'est-à-dire que chez les grands enfants, l'écran confronte de façon presque traditionnelle, je dirais, que comme ça a pu être le cas avec la télévision, avec toute la modernité. Les jeunes viennent interroger les parents sur leur ringardise. C'est-à-dire que l'écran chez les ados vient remettre en question des fonctionnements familiaux, vient remettre en question l'omnipotence parentale. Et chez le tout petit, en revanche, l'écran, en effet, va avoir un effet plus pernicieux sur le développement de la pensée. C'est-à-dire que on arrive à une symptomatologie qui... on a l'impression que la symptomatologie actuelle est plutôt en lien avec une pensée qui ne pourrait pas ou qui n'aurait pas de profondeur. C'est-à-dire que la pensée, pour se développer, a besoin... de la relation, on pense en parlant dans sa tête. L'écran souvent nous confronte à une sorte de d'immédiateté et on est de plus en plus confronté à une symptomatologie qui fait disparaître cet espace de penser au bénéfice d'un agir peut-être plus, plus fréquent. Les enfants, on a l'impression qu'ils sont plus explosifs, qu'ils ont moins de capacité à se... à mettre en mots, à mettre en pensée leurs difficultés, leurs frustrations.
Donc ils peuvent être aussi assez passifs devant l'écran finalement.
Oui, là aussi plusieurs, enfin il y a plusieurs façons d'utiliser l'écran, mais de fait l'enfant devant l'écran est nourri sans effort, hein, mais il y a aussi cet aspect un peu pernicieux qu'il est dans une position d'omnipotence, hein, par rapport à son désir. Là où nos maîtres disaient que l'espace entre le besoin de l'enfant et la réponse parentale était structurante. On parlait de parents suffisamment bons, pour citer Bowlby. L'écran vient faire disparaître cet espace. Quand l'enfant entre en interaction activement, donc plus passivement, avec l'écran, l'écran apporte une réponse, une satisfaction quasi immédiate. Hein, donc, empêche l'enfant de se structurer par la frustration, par une sorte d'auto-régulation de ce fait-là.
Alors, avec les personnes que vous rencontrez, les enfants, les familles aussi, je suppose qu'ils les accompagnent,
oui,
la
plupart du temps, on aime bien que les familles soient là.
Les familles soient là, oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez alors pour éviter ou limiter cette façon d'être devant son écran et interpeller d'une façon négative plutôt que positive?
On préconise surtout la nécessité du partage. Du partage, que l'écran soit vraiment un moment de partage. Il faut aussi se rendre compte que pour certaines familles, l'écran apporte un peu de vie dans le foyer. Et de dire on supprime l'écran, parfois confronte ces familles-là à des mouvements assez intolérables de vide, d'ennui ou de colère, hein, et l'écran peut venir un peu adoucir l'ambiance familiale. C'est pourquoi nous n'interdisons pas formellement l'écran dans la famille. On essaye promouvoir l'idée que l'écran, ça doit être un partage, c'est-à-dire qu'on peut discuter d'un écran comme on l'en ferait dans une voiture, ensemble, afin de nourrir sa pensée. On parle aussi pas d'un autre grand chapitre qui est l'écran dangereux par le harcèlement, et là aussi on est confronté parfois à des enfants qui se font harceler par l'écran, et on insiste vraiment sur la nécessité d'un regard parental, d'un contrôle parental sur ce que les enfants font devant leur écran, ce à quoi ils peuvent être confrontés.
Mais alors justement, on va arriver à des générations où les parents sont habitués aux écrans, aux ordinateurs, etc. Mais on a encore actuellement une génération, quand vous dites contrôle parental, encore faut-il contrôler l'élément, l'écran. Il y a encore des parents qui sont pas forcément, qui n'ont pas été baignés dans l'informatique. Et là, c'est plutôt l'enfant qui va dominer les parents, qui va savoir faire fonctionner donc son écran. Et les parents vont être un peu en recul et encore plus désemparés pour pouvoir contrôler tout cela, quoi.
Exactement, et c'est souvent très 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 constructeur et très 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 amusant de voir l'enfant tout d'un coup narcissiquement se dire qu'il a une importance dans le foyer par l'apprentissage qu'il peut faire à ses parents. Je crois pas que ce soit si négatif. Les parents les plus en difficulté sont les parents qui ont parfois le sentiment que si ils ne sont pas dans une, soit une toute puissance vis-à-vis de leur enfance, soit s'ils frustrent leur enfant, seraient des mauvais parents. C'est-à-dire que on dit souvent aux parents que il n'y a pas de mal, c'est très constructif à pouvoir frustrer parfois son enfant, réduire le temps de consommation de l'écran. Et je pense que l'écran n'est pas responsable du fait que l'enfant puisse à certains moments se sentir un peu plus fort que le parent. Une génération chasse l'autre, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et puis, l'écran est un outil, quoi.
Merci en tout cas de toute cette précision et de cette vision très 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 précise hein, de ce qui peut interpeller donc dans les familles et comment aussi y apporter une première réponse. D'autres réponses peuvent être apportées par vous dans la cellule familiale qui pourrait être amenée à vous rencontrer lors des permanences donc réalisées à Vire. Pierre-Jean Aigler, merci.
Merci beaucoup.
Nous allons maintenant, après une nouvelle pause, partir en direction de l'espace numérique public de Vire Normandie, là où évidemment les rendez-vous se posent aussi et où les écrans sont nombreux, avec Guillaume Thomas, juste après la pause.